Je pense que quand j'ai joué passer dans l'émission, dialogue entre Congolais avec Kevin Côté. Bonsoir. Après le 30 juin 2010, quel type de Congolais et quelle action menée pour assurer le développement du pays les 50 prochaines années? C'est notre thème de ce soir. Pour en parler, je reçois dans cette émission Christophe Lutundula, il est député national, membre de la commission politique, administrative et judiciaire. Il est aussi président du mouvement Solidarité pour la démocratie et le développement. Il est de la majorité présidentielle. Bonsoir, honorable, il vient de faire son entrée.
Oui, bonsoir.
Gilbert Kiakwama, député national, président du groupe parlementaire des chrétiens démocrates et président de la Convention des démocrates chrétiens et de l'opposition. Il est en ligne. Bonsoir, honorable. Je crois qu'on a un petit problème technique. Le professeur Kambayi Boacha, qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre, il est historien des mentalités et professeur ordinaire à l'Université pédagogique nationale UPN. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Vous êtes nombreux à réagir au débat de ce soir, vous, fidèles auditeurs de Radio Kati, prophète Mathieu de Kananga au Kassai occidental. Je pense qu'il n'y aura jamais de changement perceptible dans les 50 prochaines années, aussi longtemps qu'il n'y aura pas de changement de mentalité. Serge Camara de Bounia en province orientale, je pense que tout le monde doit se sentir concerné par les actions de développement dans les prochaines années par des planifications stratégiques et opérationnelles, car le compteur est remis à zéro. Merci de nous suivre partout en RDC sur la fréquence FM et à travers le monde sur www.radiookapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 678 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Le mercredi 30 juin 2010, la RDC célèbre son 50e anniversaire d'indépendance. Mais globalement, quel bilan peut-on dresser de ces demi-siècles sur le plan politique et socio-économique? Je pense avec vous, Alain Rung.
Dans le dernier message de la Conférence épiscopale nationale du Congo au peuple congolais à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance de la RDC, les évêques catholiques reconnaissent que certes des progrès sectoriels ont pu être réalisés et de nombreux acquis en plusieurs domaines ont été obtenus, notamment des infrastructures dans le domaine éducatif et sanitaire, la formation de l'élite intellectuelle de haut niveau universitaire, la mise en place des institutions issues des élections démocratiques, le refus de la balkanisation, etc. Cependant, à l'instar des évêques catholiques, plusieurs observateurs notent que malgré ces avancées, le bilan global peut se résumer par 50 années de tribulations et d'opportunités manquées. Si la vie politique est caractérisée par une logique du pouvoir contraire aux idéaux de l'indépendance, l'économie régresse, est extravertie et souffre de prédation. Quant à la vie sociale, les inégalités sont criantes et la misère indescriptible. Quelle attitude adopter alors face à ce tableau sombre? S'apitoyer sur son sort n'est certes pas la solution. Il est donc temps de déterminer pour les prochaines années en cœur avec les évêques catholiques de quel Congo rêvons-nous et quel type d'hommes pourrait mobiliser et canaliser les efforts pour le développement de la RDC. C'est certainement le défi des 50 prochaines années.
Merci Alain Rung pour ce papier d'analyse. Honorable Christophe Lutundula, vous êtes député national et membre de la majorité. Des progrès ont pu être réalisés dans différents secteurs, notamment des infrastructures, l'éducation, la formation de l'élite intellectuelle, la mise en place des institutions issues des élections démocratiques. Cependant, à l'instar des évêques catholiques, plusieurs observateurs notent que malgré ces avancées, le bilan global peut se résumer par 50 années de tribulations et d'opportunités manquées. Votre réaction, honorable?
Oui, moi je pense que le jugement, le verdict des évêques n'est pas loin de ce que pensent tous les Congolais, y compris moi-même. C'est vrai, comme ils l'ont dit, au risque de les répéter, nous existons comme pays, comme nation, comme État, quelque part, même s'il faut consolider l'État, mais globalement, pendant 50 ans, c'était un gâchis d'énergie, un gâchis de ressources. L'intelligence congolaise a refusé de comprendre et d'inventer. La raison congolaise a refusé de raisonner. C'est à peine que nous commençons à voir, si vous voulez, un peu de lumière sur notre avenir. C'est à peine que parce que vous m'avez interpellé comme quelqu'un de la majorité. Je salue l'action de la majorité du président Kabila. C'est à peine donc grâce à cette action qui a associé aussi d'autres Congolais. Nous commençons à travailler parce que finalement, on dit que c'est le travail qui anoblit l'homme. Il n'y a pas de bonheur en dehors du travail.
Et donc pendant ces 50 années, le travail ne se faisait pas.
Ce n'était pas la mesure de ce qui devait être fait. Parce que la mesure du travail, c'est le résultat. En l'espèce, le résultat pour une nation, c'est la prospérité, c'est la grandeur, c'est la puissance, la sécurité. Je ne peux pas faire injure aux Congolais pour affirmer ici que dans tous ces aspects du bien-être collectif, nous avons réussi. Nous n'avons pas réussi. Il faut travailler. Travailler. Prenons de la peine, c'est le sentiment le moins, comme disait Riche Laboureur, comme Jean de La Fontaine faisait parler au Riche Laboureur. C'est ça le secret.
Et qui est responsable, selon vous, de ces 50 ans leadership, le peuple congolais lui-même?
Il y a avoir et à manger. J'aimerais tout d'abord dire, de mon point de vue, il n'est pas question pour moi de continuer à me lamenter et à sataniser l'Occident. Il y a 50 ans, nous ne sommes pas le premier à avoir été colonisés. Si vous faites le tour du monde, depuis l'époque de Jésus-Christ, jusqu'après la naissance de Jésus-Christ, les nations se sont combattues mutuellement. Il y en a qui ont pris les dessus, et finalement, on se relève, on continue. La grande responsabilité incombe, il faut le dire, à tous ceux qui ont eu, à un moment ou à un autre, à exercer le leadership au sein de notre société. Le leadership signifie simplement la direction du pays et la gestion du destin commun. En l'espèce, je n'aime pas avoir la langue de bois, le leadership s'exerce à travers la détention et l'exercice du pouvoir, à quelque niveau que ce soit. Je veux dire par là, à partir du groupement jusqu'au niveau de l'entité centrale, l'État. Nous avons failli à notre travail, à notre mission. Mais ce serait aussi mentir que de considérer que cette responsabilité, même si au niveau de leadership elle est la plus importante, cette responsabilité a comme champ d'application seulement la classe dirigeante. Et je voudrais qu'on se comprenne, quand je parle de la classe dirigeante, il s'agit de ceux qui sont dans le microcosme politique, comme de ceux qui évoluent dans la société civile. Le leadership, globalement, la population aussi a sa part de responsabilité. Et là, je vais prendre un peu, si vous voulez, des petites phrases apparemment banales, mais qui sont assez symptomatiques d'un état d'esprit d'une culture. Et tout à l'heure, je vous ai suivi répéter ce qu'on a un compatriote de l'intérieur qui a parlé de la mentalité. Et que vous tous disiez qu'il n'était pas nécessaire que le président, à l'époque fondateur, je vais vous dire de nettoyer devant votre parcelle pour que vous puissiez nettoyer. Ce n'était pas un problème du chef de l'État. Hier comme aujourd'hui, on n'a pas besoin de Joseph Kabila. Pas besoin de Joseph Kabila, du Premier ministre, des ministres ou de gouverneurs. Je ne parle pas de parlementaires parce que l'on ne gère pas. Pour donner de la propriété à votre parcelle. La responsabilité des Congolais aussi, c'est la culture de prédation, la facilité. La facilité. On travaille très peu, souvent quand je dis ça, les gens pensent que j'ingérie ou j'en pense. Non, c'est la vérité. Vous n'avez qu'à voir, c'était encore un caractère très banal. Actuellement, on voit les travaux chinois dans la ville. Vous voyez le Congolais qui s'agglutine autour des travaux en spectateur. Alors ça nous concerne. Voilà.
Merci, honorable. Vous êtes avec nous. Vous êtes encore avec nous dans ces débats. On a 45 minutes d'émission. Honorable Gilbert Kakwama, bonsoir. Vous êtes en ligne.
Bonsoir madame.
Vous êtes député national, membre de l'opposition. Vous, quel bilan globalement vous faites de ce demi-siècle sur le plan politique et socio-économique?
Bien, d'abord je crois que je rejoins les effets d'une part et d'autre part. Je souscris à tout ce que vient de dire mon ami et collègue Christophe Letourneau. Je voudrais d'abord vous dire que je ne parle pas en tant qu'opposition, parce que souvent dans notre pays, on se perd en clivage. Je parle d'abord en tant que citoyen congolais. Mais en tant que citoyen congolais, je remarque, comme d'autres, que tous les rendez-vous manqués, que les opportunités que nous avons laissées passer, et ceci de bientôt 50 ans. Pendant 50 ans, je crois que le peuple congolais, ses dirigeants, ses responsables, les gouvernants, nous avons manqué le rendez-vous avec l'histoire. Et je crois que les évêques ont utilisé un mot que je trouve judicieux, le rêve brisé. Car en fait, lorsque les pères de l'indépendance, j'ai l'âge où je peux me permettre, j'avais quand même une vingtaine d'années, donc je savais ce qui se passait, 58, 59, 60, jusqu'à l'indépendance, vous ne pouvez pas vous rendre compte ce qu'il y avait une espérance, un espoir d'une vie meilleure, où il n'y aurait plus de discrimination, il y aura l'égalité, où tout le monde pourra trouver du travail, être rémunéré correctement, vivre comme tout le monde. Hélas, dès les premiers jours de l'indépendance, il se fait que nous avons pris à la bonne direction. Mais alors, on peut se dire, est-ce que tout était négatif? Non. Mais je crois que peut-être que l'on relevé, je dois reconnaître que ce que mon collègue ne tourne pas bien de dire. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Notamment, les gens oublient de le dire, qu'au sein de l'indépendance, nous avions à peine 5 ou 6 universitaires. Or, aujourd'hui, nous avons des universitaires qui sont non pas seulement nombreux dans le pays, mais qui sont dans toutes les grandes universités du monde. On a des cerveaux. Mais le problème de fond que nous avons, c'est le problème du patriotisme, le problème de conviction, le problème de l'absence d'une culture politique. Vous savez, lorsque le président Ouad est passé par ici et qu'il a relevé ce problème, on l'a traité de tous les noms. Je crois que nous devons être honnêtes. Il manque réellement une culture politique. Et ceci, je vais donner un exemple simple. Dans toutes les autres colonies où il y avait une culture politique, chacun s'était de la mairie. Ici, chez nous, dans les villages, il n'y a personne qui sait aussi le maire. Donc, dès le départ, la démocratie ne s'est pas installée au village, dans le secteur, dans le groupement. Et alors, nous avons pris le problème au défi.
Allô, honorable. Allô, allô.
Okay.
Je crois qu'on a un problème de communication, la ligne n'est pas très bonne. Est-ce que vous pouvez vous déplacer un peu pour améliorer la qualité de la ligne? Allô. Vous m'entendez bien, honorable? Bon, on va vous rappeler parce que là la qualité elle est vraiment mauvaise, on n'arrive pas à écouter ce que vous dites. La réalisation va vous rappeler. Professeur Kambayi Boacha, bonsoir, vous venez d'arriver.
Bonsoir.
Alors, nous parlons de l'indépendance, la RDC, le bilan 50 ans après, sur le plan politique et socio-économique. C'est vrai, l'Église catholique a reconnu qu'il y a eu des progrès 50 ans après, notamment dans le secteur des infrastructures, la formation de l'élite intellectuelle. Mais entre-temps, certains d'autres observateurs pensent que c'était 50 années des gâchis. Votre réaction, professeur?
Bon, c'est-à-dire que je peux situer ma réaction en trois phases en termes de thématisation. Nous avons l'habitude de poser le problème de bilan en termes de ce que nous étions, ce que nous sommes et les perspectives d'avenir. Moi, je dirais à un historien de mentalité, je dis ce que nous sommes aujourd'hui, vous voyez, comment sommes-nous aujourd'hui? En posant cette question, je vais répondre en disant qu'est-ce que nous étions? Et puis, toujours aujourd'hui, je me dis comment devrions-nous être à ce moment précis? Vous voyez? Alors, si je regarde hier, j'ai dit que nous étions plus, moins bien. Nous étions bien. Vous voyez? Plus de temps, bien, nonobstant les nuits dictatoriales. Plus de temps, plus ou moins, bien. Sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan de l'université, je viens de prendre l'écoute de l'honorable qui a parlé tout à l'heure, je crois qu'il a souligné de points assez importants au point de vue positif, de la positivité. Alors, je reviens aujourd'hui, ce que nous sommes aujourd'hui, je veux dire que nous ne sommes pas bien. Vraiment, nous ne sommes pas bien. Et cela, nonobstant ce que l'honorable Pierre-Comin a dit, n'est-ce pas, il y a des universitaires, plein d'universitaires, mais il n'y a pas de professeurs. Vous voyez, nous sortons les élèves à l'école secondaire, au diplôme d'État, mais il n'y a pas d'école pour les recevoir. Nous avons plein d'écoles pour recevoir nos étudiants, nos élèves, mais il n'y a pas de maître d'école. Vous voyez, nous avons plein d'universités, mais il n'y a pas, encore une fois, de professeurs. Nous avons pléthore à la fonction publique, mais nous n'avons pas les facultés qu'il faut. Vous comprenez? Lorsque nous arrivons jusqu'au Parlement, nous verrons que même nos députés se plaignent de quelque chose. Alors, ce que nous devrions être, c'est quoi? Au niveau de critique.
Je vais vous arrêter une minute, mais cela est dû à quoi, professeur?
Non, cela est dû simplement. Elle n'est pas loin. C'est une question de mauvaise gouvernance. Simplement. N'allons pas loin. Celui qui aime son pays, gouvernance comme il faut. C'est-à-dire, il est dans l'autrui. Il est l'autre lui-même. J'ai entendu l'honorable Pierre-Comin parler du patriotisme. Mais le pater. Le patriotisme vient de patrie. Le patrie vient de pater. Le pater, c'est le père. Et quelque part, le père évoque la mère. C'est pour ça qu'on parle de la mère patrie. Tout le monde aime sa mère. Bon, on devrait aimer la patrie comme on aime sa mère. On est jaloux, on doit être jaloux de la patrie. Et si on est jaloux de la patrie, on doit comprendre que la patrie est composée d'hommes. Alors, lorsque moi, je suis élu pour ma patrie, je dois aimer cette patrie parce que c'est ta terre, c'est ma mère. Et c'est ce que nous donne le je suis né. Et je suis né, c'est le natus. Alors, quand je suis né sur un sol, ou quand j'opte pour habiter sur un sol, je suis un homme jaloux. Je travaille pour le bien de ce peuple, pour le bien du sol. Je vais faire l'inventaire des richesses de ce sol pour le bien-être de mon peuple. Je ne peux pas dire aujourd'hui que nous devions être cela. Alors, quand vous posez le point de bilan, voici comment je le présente. Ce n'est pas mitigé. Nous sommes nous-mêmes responsables. Et comme nous ne pouvons pas être tous responsables, il y a des responsables.
Et c'est qui ces responsables?
C'est très facile à dire, c'est très facile. Lorsque vous êtes dans une famille, un papa qui se met, excusez-moi la façon de parler, un papa qui se met à gaspiller de l'argent, un papa qui se met à prendre l'enfant à la maison, un papa qui se met à boire et que les enfants ne payent pas des minervales. Alors, les enfants, ils sont. Vous avez dit que ce sont les oncles? Vous avez dit que ce sont les oncles ou c'est la maman? Non. Je suis responsable de la mauvaise usure de ma famille.
Merci, professeur. Qu'est-ce qu'il des Congolais? Quelle action mener pour assurer le développement du pays les 50 prochaines années? Pour mettre Tiboua Achinapachi, il est avocat, ancien ministre de la Justice et ancien membre du comité central. Le Congolais pour les 50 prochaines années doit être un Congolais consciencieux. Quant aux actions à mener, l'agriculture reste parmi les éléments clés du développement d'un pays. On l'écoute.
Il faudrait vraiment des hommes vraiment à former sur le plan mentalité, sur le plan comportement, sur le plan conscience. Si pendant deux ans, il y a un manque conscientieux, madame, je suis convaincu que dans cinq ans, le monde sera surpris. Donc, ce ne sont pas des gens qui manquent, c'est la conscience qui manque, c'est l'âme congolaise qui manque aux gens. Il faut que les hommes soient transformés. Il faut aussi la crainte de Dieu. Le monde pourra dire vraiment, il y a un miracle congolais. J'ai confiance en ce qui va venir de notre pays. En ce qui concerne les actions à mener, c'est d'abord, vous savez que nous devons revenir à l'agriculture. Donc, demain, on va juger cette gouvernement sur sa capacité de nourrir son peuple. On ramène aussi le fonctionnaire à travailler consciencieusement. Parce que sans l'administration, on ne peut rien faire dedans. Aujourd'hui, notre administration, découragée, malgré tout, ne font rien. Ils se doivent mettre dans des conditions où ils peuvent travailler correctement.
Honorable Gilbert Kiakova, j'espère que la ligne s'est améliorée. Vous m'entendez? Allô? Je crois qu'on a des petits soucis avec la ligne de l'honorable Kiakoma, l'honorable Christophe Lukindula pour mettre petit bobo. La conscience manque aux Congolais. Il faut transformer la mentalité des Congolais. Votre réaction?
Oui, je voudrais dire qu'il a totalement raison. Il n'y a pas de progrès là où il n'y a pas d'homme. C'est l'homme qui est le moteur du progrès. Qui en est également le bénéficiaire, j'allais dire, la finalité. J'ai dit tout à l'heure que nous avions un problème culturel. Je crois que ce que nous devons faire dans les 50 ans à venir, c'est d'inventer, de créer un nouveau Congolais. Que ça veut dire ça? Ce sont deux mots. Un Congolais travailleur, un Congolais responsable et un Congolais qui a le sens de la morale. C'est ce que tu vas voir. Un roc qui parle de Dieu. Ça veut dire que nous devons faire un peu comme les Chinois, les années 60, la révolution culturelle. Nous devons avoir notre esprit de Yukong. J'espère que vous rappelez encore l'esprit de Yukong pendant la révolution culturelle chinoise. C'est dur, mais il faut y aller. Si on ne change pas de mentalité, si le système de valeurs reste la corruption, reste la facilité, la prédation, et tout ce qu'on peut dire autour de ça, en termes d'antivaleur, ça ne changera pas. J'insiste toujours sur le travail. Quels sont les instruments de cette révolution culturelle? À mon sens, c'est d'abord l'éducation. Je ne dis pas l'enseignement, je dis l'éducation. Je voudrais impliquer en ce moment-là l'école, la famille. L'école et la famille, nous avons la tâche de conférer aux nouveaux Congolais le savoir. Le savoir-faire et le savoir-vivre. C'est ce que nous, on nous a appris de ce que nous étions jeunes, les années 50 et 60, à un certain moment à l'école, comme au sein de la famille. Il faut réhabiliter la famille dans notre
société. Est-ce que vous appliquez ce que vous avez appris, honorable Toumbla?
Je préfère qu'on me juge. Ce serait prétentieux de juger moi-même.
Mm-hmm.
L'instrument aussi, c'est le modèle. J'ai l'impression que notre société est en crise de modèle. Et le modèle, madame, je n'aime pas la langue de bois. Je ne sais pas de philosophie, je suis un opérateur politique. C'est d'abord le dirigeant. Le dirigeant, il doit être un modèle, une référence. Et soyez certains, un peu comme l'a dit mon aîné, Maître Kibaboua, lorsqu'il a utilisé les facteurs temps, c'est nous qui avons la mission de conduire ce pays vers le progrès. Si nous, nous sommes dit, par exemple, nous les opérateurs politiques, nous faisons la politique au service des autres. Nous donnons l'exemple, les Congolais vont le suivre. Et ça va changer rapidement. Dans le même sens de modèle, les intellectuels. J'ai l'impression que nous avons des universitaires. Je suis heureux parce que je suis à côté de mon aîné, le professeur Kambaye, qui donne, qui forme la jeunesse. J'ai l'impression que nous avons des intellectuels. Nous n'avons pas une élite. Au sens des hommes et des femmes qui doivent être aux avant-postes du combat pour le progrès, aux avant-postes de la créativité, ceux qui doivent transformer ce pays par les productions. Rappelez-vous la Révolution française. Bien sûr, il y a eu les tiers états, il y a eu une série de mouvements sociaux, mais d'abord, ce sont les écrivains, les intellectuels, les théoriciens du droit, les politologues, qui ont formé la culture du français, qui ont désacralisé le royaume du 14 et le reste, et qui ont permis de changer la France, de la faire entrer dans la voie de la liberté et de la démocratie. Nous avons démissionné. C'est pour ça que j'ai toujours dit que les intellectuels, hommes ou femmes, nous n'avons pas le droit de nous désintéresser de la politique. Parce que la madame, la politique tient tout à l'État. Je voudrais dire que si la direction politique ne marche pas, vous n'aurez pas une bonne économie. Je crois que c'est Colbert qui disait à l'époque, premier ministre des Finances de 2014, faites-moi de bonne politique, je vous fais de bonnes finances. Vous voyez, si la direction politique qui doit orienter, qui doit décider, qui doit déterminer du cadre de gestion, du comportement obligatoire ne marche pas, eh bien, ça ne marchera pas. Et nous avons utilisé pourquoi? C'est pour servir des lumières de la société. C'est notre vocation naturelle. Je ne suis pas d'accord avec les intellectuels qui suivent les champs de politique.
Merci, honorable Lutundula. Honorable Tiakoma, vous êtes en ligne?
Oui.
Voilà, j'espère que la qualité s'est améliorée. On est au niveau de quel type de Congolais et quelle action menée pour assurer le développement du pays pour les 50 prochaines années. Selon vous, pour l'honorable Lutundula, il faudrait un Congolais travailleur, responsable, changer la mentalité des Congolais. Selon vous, quel type de Congolais faudrait-il pour les 50 prochaines années?
Bien, et je crois d'abord que mon collègue Lutundula a raison lorsqu'il fustige la position des intellectuels. Je crois qu'un intellectuel, c'est d'abord quelqu'un qui est porté à la réflexion et qui se remet en cause. Je crois que le drame de l'élite congolaise, sait qu'elle aime le confort, la quiétude, les privilèges. Elle ne remet rien en cause, encore moins qu'elle ne se remet pas en cause. L'on ne pourra pas changer ce pays aussi longtemps que nos intellectuels perdent leur temps à chercher la sécurité. Un intellectuel, par nature, il doit être révolutionnaire dans sa pensée. Il doit être créatif. Il doit pouvoir critiquer, contester. Et ce n'est que comme cela que dans un dialogue fructueux, dans un dialogue démocratique, public, contradictoire, on va créer. L'homme qu'il faut, d'abord, il faut qu'il soit intellectuellement honnête. Deuxièmement, cet homme doit avoir des convictions, c'est-à-dire des valeurs, des choses auxquelles il attache une certaine valeur. Et ces valeurs sont inhérentes à la nature même de l'être humain. Quelle est l'idée que le Congolais intellectuel ou le Congolais moyen ou le Congolais tout court se fait de la liberté? Un homme qui n'est pas libre, un homme qui n'a pas le libre arbitrage, ne peut pas être en mesure d'assumer une certaine responsabilité. Donc il faut des hommes libres, et ensuite l'homme doit être responsable. Mais être responsable, ça voudrait dire être capable de s'ajuster, être capable de juger, de porter un jugement sur l'acte qu'on a posé. Et lorsqu'on porte un jugement sur les actes qu'on a posés, sur les actions qu'on a menées, cela, ça s'appelle rendre compte. Mais on ne rend pas compte parce qu'on est obligé, parce que quelqu'un le demande. Non, c'est parce que soi-même, on doit se rendre compte que je ne me suis pas écarté des règles, des principes. Est-ce que je ne me suis pas écarté de la manière dont on peut faire quelque chose? C'est lorsqu'il y a des écarts et que vous le reconnaissez, à ce moment-là, vous avez la capacité intellectuelle de juger. Or, souvent, nous nous faisons cet exercice de s'évaluer nous-mêmes. D'ailleurs, vous remarquez tout à l'heure, lorsqu'on m'a présenté, on m'a dit le monsieur qui a pas mal de l'opposition. Mais moi, je ne suis pas opposition. Je suis d'abord un être congolais, libre. Et à ce titre-là, j'ai choisi l'opposition par rapport à la majorité actuelle. Non pas parce que je suis contre la majorité ou que je suis contre quelqu'un, mais non. Ici, simplement, j'ai une certaine idée que l'on peut voir d'autres manières pour gérer notre pays. Comme disait le professeur, c'est la gouvernance de notre pays peut se faire autrement que comme on l'a fait maintenant. Voilà un peu le problème de fond. L'élite est une grande responsabilité dans ce qui nous arrive, dans ce qui nous est arrivé hier. Il faut qu'elle se ressaisisse, qu'elle quitte d'abord le privilège, le confort. On veut tout avoir sans rien faire. Et j'ai entendu mon collègue nous l'a dire, le travail. On n'arrive à rien sans travail. Mais travailler suppose que exigence, contrainte. L'exigence commence par soi-même. Il y a des gens qui ne sont pas exigeants, ils le demandent aux autres. Non, on doit donner l'exemple. J'en ai un cas simple. Comment voulez-vous que nous nous développions dans un pays où personne, tout le monde porte des montres en or sophistiquées et ils ne sont jamais à l'heure? Il y a un problème. Nous sommes au Parlement, parlons-en. Je suis député, on nous convoque à 10 heures, et bien la réunion commence à. Si ça commence à 11 heures, vous avez de la chance. Sinon, c'est 2 heures après. Alors, on est habitué à ce message, on vous dit, initialement prévu à telle heure, ça devient à telle heure, il peut marcher comme ça. On a toujours le temps. C'est tout ça qui doit changer. Intérioriser le temps comme facteur de développement. La bonne gestion, c'est-à-dire laisser les choses à la manière où ça doit se faire en visant d'abord l'intérêt général et le bien commun. Aussi longtemps que nous serons des égoïstes, des individualistes, on ne va nulle part. Après 50 ans ou après 100 ans, ce sera toujours la même chose. On va tourner en rond.
Voilà. Donc, pour vous résumer, le Congolais doit changer de mentalité, positivement.
Je n'aime pas beaucoup cette histoire de changer de mentalité. Je crois que le Congolais doit d'abord changer. Et le premier changement qu'on lui demande, qu'il fasse l'effort d'abord de percevoir ce que c'est que la loi. Vous savez, le développement est un peu fonction de la perception qu'un peuple a de la loi. C'est-à-dire une règle acceptée par tout le monde, une règle qui est au-dessus de tout le monde, y compris le président de la République, y compris le premier ministre et tous les autres. Mais ça, la loi, première suprême. Deuxième chose, il faut que le Congolais reconnaisse et apprenne ses droits. Nous avons des droits fondamentaux, nous avons des droits sociaux, mais ça, nous avons des droits juridiques. Et bien, le Congolais ne connaît que des dons. N'est-ce pas, il est tout content. On lui a donné un matelas, il est tout content. Il ne sait pas qu'il a droit à ça. On lui a donné une école, il est content. Tout le monde construit des écoles. Mais alors, quand ils sont pas aux affaires, personne ne construit une école. Ils ne sont pas aux affaires, même la femme distribue des cadeaux. Comment voulez-vous qu'on en sorte? Alors, nous sommes un peuple habitué à avoir des cadeaux. Alors, on vous amène deux biscuits, on fait un grand discours. Et le ministre fait le discours parce qu'ils ont reçu le cadeau.
Merci, honorable.
Et l'homme des droits.
Merci, honorable. On a compris votre message de passé, professeur Kambayi Boacha. Quel type d'homme pour les 50 prochaines années?
Après, écoutez, c'est très facile, c'est très très facile. L'homme a la capacité de comparer. De comparer. Le développement, madame, et se compare, s'évalue. Le développement s'observe. Et le développement est objectivable. L'autre, et puis le terme développé, madame, c'est un terme actif. On voit quelqu'un se développer. Il ne faut pas aller ailleurs. On compare ce que je suis aujourd'hui et ce que j'étais hier et ce que je devrais être. De un, la question est fondamentale. Pourquoi on devient professeur? Pourquoi on devient président de la République? Pourquoi on devient sénateur? Pourquoi on se marie? Pourquoi on devient prêtre? Pourquoi et pourquoi? Alors, à ce moment-là, on ne sait pas résoudre la question du pourquoi on devient sénateur. Pourquoi on devient prêtre? Pourquoi on devient pasteur? Vous comprenez cela? C'est pourquoi on se marie? Pourquoi on devient professeur? Ça devient compliqué. Alors, à ce moment-là, on se voit quand on parle de le Congo est riche. C'est quoi la richesse? Alors, on ajoute à côté un terme, le Congo est potentiellement riche. Mais non, mon œil. Le Congo n'est pas riche parce que la richesse est un fait social, madame. La richesse est un fait social, j'en prends des hommes de droit et de l'analyse, comme l'honorable qui a comme on l'a dit. La richesse est un fait social. Vous ne pouvez pas vous développer seul. La dichotomie existentielle qu'on décrit partout dans le processus de développement, madame, c'est simplement parce que les uns sont aberrativement riches et les autres sont, je ne veux pas dire le terme, pauvres, vous comprenez? Alors, mon pays, nous avons la forêt la plus grande. Pourquoi? Et pour qui? Nous avons 60 millions. Mon peuple. Il y a combien de peuples? C'est quoi le peuple? Alors, à ce moment-là, lorsque j'ai inventorié tout ça, je fais la politique de la bonne gouvernance. Et on le sait. C'est pas parce qu'on parle en français que celui qui ne connaît pas français ne sait pas ce que c'est le gouvernement. C'est un pays. Même la maman m'a recherché. Alors, de deux, le payer à partir de demain, pour 50 années à venir, doit chercher à avoir des repères. Et celui qui doit donner des repères, c'est celui que nous avons élu. Vous comprenez? C'est commencer par le gouverneur de province, les députés, les sénateurs, remonter au gouvernement, remonter au président de la République. Alors, ceux-là qui doivent nous donner des repères, parce qu'ils ont un rôle d'éducation. On a parlé de l'élite. Mais l'élite, ce qui? C'est pas celui qui a des diplômes universitaires. Mais non, ne comprenez pas les choses. L'élite, c'est celui que l'opinion publique a choisi en termes de critères d'éthique et de morale. Alors, quand on entre dans le cadre d'éthique et de morale, alors vous avez d'abord la spiritualité. N'est-ce pas? Un président, un professeur, un sénateur, qui ne peut pas arriver à spiritualiser les choses, à ce moment-là, il ne peut pas gouvernancer. Et puis alors, il ne faut pas confondre l'intellectuel et l'élite. Pardon, madame. Alors, à ce moment-là...
Une minute, professeur.
Oui, vous voyez, c'est important.
Allez-y.
Je vais dire maintenant, une minute, c'est très bien. Mais je dis aussi, l'élite ne manque pas. Mais cependant, l'élite est comme un objet d'art. Et vous savez qu'un objet d'art, esthétique donc, placé dans un contexte non esthétique et artistique, cet objet d'art perd sa valeur. Donc, l'élite, c'est celui qui annonce les valeurs, qui dénonce les propres valeurs et qui s'engage aux côtés des valeurs annoncées. Je vais terminer en vous disant ceci. Quand on parle de la corruption, mais c'est grave. Nous voyons la corruption en termes d'argent, mais la corruption, c'est simplement la dénaturation de la nature naturelle des choses. Et le corrompu et le corrupteur, tous sont des mauvais. Alors la loi est là pour dire tous les deux sont pénalisés. Vous comprenez ce qu'il y a beaucoup à dire.
Merci, professeur. De son côté, le directeur général de l'Organisation internationale pour l'immigration et ancien représentant du secrétaire général des Nations Unies en RDC, l'ambassadeur William Lassissi, se dit optimiste quant à l'avenir de la RDC. C'est aussi l'occasion pour William Lassissi de féliciter le peuple congolais pour tout ce qui est fait pour la prospérité, la sécurité et la stabilité de la RDC. On écoute William Lassissi au micro de chef.
Écoutez, je suis parti ici il y a 2 ans et demi, très optimiste, et je reste demeure positif concernant l'avenir de ce grand pays, un des pays très importants en Afrique pour tout le continent. Restez fidèle au cours que vous avez déjà fait il y a beaucoup d'années, d'aller en avance, prospérité, sécurité, stabilité, comme avant. Parce que le peuple est très courageux, ils sont des gens très religieux, qui aiment la famille, ils ont tout ce qu'il faut. Hein. Et je suis ici pour féliciter le peuple congolais pour tout ce qu'ils ont fait et de féliciter et de souhaiter tout le meilleur pour les prochaines années. Hein.
Honorable Tiakwama, vous venez de suivre l'ambassadeur William Lassissing qui s'est dit optimiste et salue le courage des Congolais quant à l'avenir de la RDC. Votre réaction?
Mais écoutez, je crois que je ne cesse de le dire et surtout de le dire à nos enfants, à nos petits-enfants. On ne peut pas être Congolais et ne pas être habité par l'espoir et l'espérance. On a un beau pays, on a un grand pays, on a un pays qui a des potentialités qui nous invite à l'action, à la créativité. Donc ce pays nous fait rêver et je ne peux être qu'optimiste. Mais je voudrais revenir à ce que vient de dire le professeur Kambay, et il a raison. Quand nous parlons de l'élite, et vous voyez que j'ai insisté là-dessus, l'élite n'est pas celui qui a fini l'université, l'élite que c'est celui dont la société a accepté les lignes de conduite, une vision. Il y a une élite coutumière, ceux qui connaissent les règles de la coutume. Il y a des élites religieuses, nos pères, les évêques sont là. Il y a des élites des affaires, les capitaines qui gèrent les entreprises. Il y a l'élite politique, il y a l'élite intellectuelle. Toutes ces élites dans les domaines qui sont les leurs doivent assumer leurs responsabilités, montrer la voie, mais aussi être critiques, évaluer, corriger et avoir le courage de dire on s'est trompé. Pendant 50 ans, nous avons erré, nous avons tâtonné. Aujourd'hui, aucun Congolais, d'un certain niveau intellectuel, ne peut pas ne pas reconnaître que nous avons fait toutes les bêtises qu'une nation peut faire, toutes les erreurs qu'on peut faire. Aujourd'hui, je crois que nous avons touché le fond. Il faut absolument rebondir et repartir dans l'espérance, avec courage, avec responsabilité, en toute liberté.
Merci,
mais ensemble. Et là, je rejoins le professeur Kambay quand il dit on ne se développe pas seul. Et l'être humain, de par sa nature, c'est l'être social. C'est par rapport à l'autre. Et notre humain montre sa dimension. Voilà un peu ce qu'il faut penser de cette espérance. Mais une espérance, il faut se donner une ambition, c'est une chose. Il faut se donner les moyens de cette ambition. Et quoi que le peuple congolais se veut encourager, travailleur et intelligent, c'est pour que les 50 années à venir soient différentes de ce qu'ils ont été l'année passée.
Merci, honorable. Nous allons prendre les réactions des auditeurs. Ils sont nombreux à nous écrire, ces auditeurs de Radio Okapi. Bakota Ali de Massadi au Bakongo, pour l'avenir, évitons le triomphalisme d'un camp par rapport à un autre, bannissons le culte des personnalités et aimons le Congo. Roussin Mitonde Kikuma de New Delhi en Inde, je recommande le sérieux à tout Congolais pour l'après 50 ans d'indépendance. Aux autorités, je leur propose de mettre la lutte contre la corruption au premier plan de leurs priorités. Alain P. dont l'honorable Lutundula est membre, d'éviter le fanatisme et d'avoir le courage de laisser la liberté d'opinion en ce moment. membres honorables, comment vous réagissez à ces deux réactions?
Bon, écoutez, nous tirons vers la fin de l'émission. Je ne pense pas que l'AMP constitue un obstacle quelconque à la liberté, à la démocratie. N'oublions tout de même pas que les élections ont eu lieu et l'AMP constitue une plateforme de réforme qui a une majorité issue des urnes, c'est-à-dire d'un processus démocratique. Donc, comme l'a dit Kakwama, ce n'est pas le problème de l'AMP aujourd'hui, nous parlons comme Congolais, et j'affirme haut et fort que l'AMP est totalement acquise à la démocratie. Nous allons travailler ensemble pour renforcer la démocratie. Je voudrais revenir sur quelques points essentiels. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer le Congo. Changer ce quoi? C'est le cadre institutionnel, c'est-à-dire nous devons travailler fort pour restaurer l'État et son autorité. Et là, vous avez toute la question de l'état de droit, du respect des libertés fondamentales et des droits de l'homme, de démocratie. Madame, laissez-moi vous dire que pour moi, et pour l'AMP aussi, parce qu'on parle de l'AMP, la démocratie, c'est un bien du patrimoine commun de l'humanité. Elle n'est pas blanche, elle n'est pas noire, elle est tout simplement humaine. Et donc, le Congo ne peut pas se développer sans la démocratie. On ne peut pas transiger avec la démocratie. C'est la question de la décentralisation, de l'autonomie des provinces, c'est la question de toutes ces grandes réformes qui portent sur les grands corps de l'État, l'armée, la police, les services de sécurité, l'administration du territoire, l'administration publique, mais aussi changer le Congo, c'est une bonne gestion de nos mines, la bonne gestion de nos ressources naturelles dans l'intérêt des Congolais et non des individus. C'est aussi, et je crois, Maître Asselapach l'a dit, l'agriculture, c'est une mine d'or pour le Congo. Il faut qu'on ait des politiques agricoles, des changements, des développements. C'est l'énergie, c'est les infrastructures.
Je vais vous demander de conclure en même temps, parce que nous sommes en fin d'émission.
Oui, donc c'est l'énergie, ce sont les infrastructures. C'est ça les atouts que nous devons avoir, qui nous permettront de réaliser les 5 chantiers suggérés par le président de la République, qui, dans ce cadre-ci, interviennent en avant. Et enfin, qui sont les artisans de Congo au Congo? C'est l'État, mais, c'est l'initiative privée. Ce sont les hommes qui agissent, et c'est pour ça que je suis d'accord avec Kakwama et tout le monde sur la liberté, les droits de l'homme qu'il faut garantir pour que les hommes travaillent. C'est dans ces conditions, le travail, l'éducation et nos atouts, l'État, que nous allons nous développer. Et je crois que je termine par là.
Merci, honorable Lutundula. Merci à l'homme de Tchomba de Kinshasa. Malheureusement, je ne peux pas lire vos réactions. Jean-Pierre Chama de Kinshasa, Blaise Osango de Kanango, Kassai Occidental, Matsumaini Conklin de Bukavu Sud, Kivu, Kassamba Wanango de Bounion, Province Orientale, Maître Juvenal Mobi de Goma au Nord, Kivu, Marcel de Kalemi au Katanga, Serge Kamara de Bounion, Province Orientale, Prophète Mathieu de Kanango, Kassai Occidental, Robert Baume de Bukavu, ainsi que Philippe Masseta de Colosie au Katanga. Professeur, votre conclusion.
Très rapidement, je voudrais dire que dans tout ce que vous venez de dire, je comprends donc que le pays, on doit voir, le pays a besoin de prophètes. Le prophète, c'est celui qui se trouve à côté de la vérité, c'est un. De deux, à partir de demain, le peuple congolais doit changer sa façon d'être et la façon de penser. Pour Mongoli, ma principale vis-à-vis. Ensuite, ce qui gouvernance doit savoir que on doit gestionner le Congo, le Congolais, pour le bien des Congolais et du Congo, pour changer nos problèmes en esprit, ainsi tisser les stratégies pour le développement et être compétitif dans la mondialité.
Merci, professeur honorable Kakwama. On se met sur bonne votre conclusion.
Écoutez, ma conclusion est simple. Le véritable problème, c'est que nous devons d'abord aimer notre pays, mais aussi nous devons nous aimer nous-mêmes en tant qu'êtres humains, veiller à la dignité de la personne humaine et quitter notre égoïsme. On est trop individualiste et trop égoïste, et seul, on n'y arrivera pas. C'est ensemble, dans une action commune, concertée, évaluée, corrigée au fur et à mesure qu'on se trompe, c'est une chose.
Merci,
dans l'erreur, ça, c'est mauvais.
Merci, honorable, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis pour ce programme sur Radio Kaki.